Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bosuma. Voici le sommaire. La ville de Kisangani accueille le président Félix-Antoine Tshisekedi ce mercredi. La population de la Tshopo attend beaucoup de cette visite, la première depuis la réélection du chef de l'État. Bientôt le début des travaux d'actualisation des listes des agents éligibles à la retraite, annonce le ministère de la fonction publique. Objectif, entre autres, aérer les cadres organiques des services et créer des vacances de poste. L'opération va du 24 octobre au 19 novembre prochain, précise le ministère dans un communiqué. Et puis, l'invité de ce midi, Fénélon Kiangaluka, gérant de la Société des techniques spéciales. Cette société spécialisée dans la fourniture d'électricité accepte d'accompagner la province du Maniema dans la réhabilitation de ses centrales hydroélectriques, annonce faite dans une interview à Radio Kapi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État est attendu à Kisangani ce mercredi. Félix-Antoine Tshisekedi va entreprendre un certain nombre d'activités sur place au chef-lieu de la Tshopo où il doit communier avec la population locale. Nous rejoignons tout de suite Jacques Moukonkole en direct de Kisangani. Est-ce que Jacques, on me fait signe que Jacques n'est pas encore là? Nous allons revenir à Jacques dans un instant. Entre-temps, sachez que l'opération de mise à la retraite des agents de la fonction publique se poursuit en République démocratique du Congo. Après la première et la deuxième vague du dit processus, le ministère de la fonction publique vient d'annoncer le début des travaux d'actualisation des listes des agents éligibles à la retraite, liste certifiée en 2023 pour le compte de la troisième vague. On va avoir des précisions avec Ronelli Ntibonera.
Dans un document daté du 21 octobre 2024 et consulté par Radio Okapi, le directeur de cabinet du ministre national de la fonction publique a indiqué cette opération ira du 24 octobre au 19 novembre 2024. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique justifie cette opération par le besoin d'aérer les cadres organiques des services, de créer les vacances de poste et de générer l'explosion des opportunités des carrières, notamment en termes d'avancement en grade. Fin des citations. À cet effet, Jean-Pierre Liaou demande aux secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de la fonction publique ainsi qu'est le responsable des ressources humaines et de président du domaine syndical sectoriel de participer à ces travaux qui se dérouleront à son cabinet de travail. Pendant ce temps, tout agent voulant vérifier sa situation administrative est prié de visiter les sites internet www.fonctionpublique.gouv.cd en portail géré par les ministères de la fonction publique.
Rendons-nous au Nord Kivu. Nous apprenons que des violents combats opposent à nouveau depuis tôt ce matin l'armée congolaise et combattants VDP Wazalendo aux rebelles du M23. C'est autour de Kalembe, à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale. Plusieurs sources civiles et militaires parlent d'un nouvel assaut des rebelles qui tiennent à reprendre le contrôle de la zone. Ces attaques poussent des centaines d'habitants à fuir le milieu. Le récit de Bernardin Nyangi.
C'est depuis 5 heures locales que les rebelles du 1-23 ont lancé des attaques simultanées contre les positions tenues par l'armée congolaise et le VDP Wazalendo. C'est notamment à Katandwa, sur la limite entre les localités Kalembe et Mweso, en territoire de Masisi, ainsi qu'à Yula, dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale, à la limite avec le territoire de Rutshuru. Certaines sources affirment qu'après près de 3 heures de combat, les rebelles du 1-23 seraient parvenus à réoccuper l'agglomération de Kalembe, alors que leurs éléments qui ont débordé vers Yula s'approchent de plus en plus de Pinga, en territoire de Walikale. Jusqu'à la fin de la matinée, des tirs nourris se faisait encore entendre dans la région. Par ailleurs, les rebelles M23 ont attaqué d'autres positions des VDP Wazalendo dans la même matinée à Kaira, groupement Bachali Mokoto dans le Masisi. Conséquence, un mouvement massif de population fuyant ces combats est observé à la fois à Kaira ainsi qu'à Kalembe et Kalongé dans le territoire de Walikale. Rappelons que c'est depuis dimanche dernier que les combats opposent les rebelles M23 et les VDP Wazalendo dans la zone. C'était avant que l'armée congolaise n'y déploie par hélico lundi un renfort militaire, selon les sources des FARDC. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Par ailleurs, les habitants de Massissi traversent une situation préoccupante du point de vue des droits humains. Des travaux forcés, des arrestations arbitraires et plusieurs abus sont rapportés par différentes sources. L'absence d'autorité de l'État dans les zones occupées par les rebelles, mais aussi celles qui sont contrôlées par les groupes armés ou Wazalendo, favorisent des exactions. Les hommes en armes se comportent en maîtres absolus dans cette zone. Les habitants de Massissi dénoncent une forte circulation d'armes dans leur contrée et demandent au gouvernement de récupérer le contrôle de ce territoire. Sifa Maguru nous raconte.
D'après nos sources, les habitants de Massissi vivent la peur au ventre. Ils circulent difficilement et n'exercent pas librement leurs activités socio-économiques. C'est à cause de l'activisme des hommes en armes. Ces habitants demandent au gouvernement de chasser les rebelles du M23 et d'encadrer les Wazalendo afin d'imposer la paix dans les Massissi. L'autorité de l'État ne se fait pas sentir actuellement. Seuls les hommes en armes ont le pouvoir, explique un habitant joint au téléphone. Même les autorités coutumières et locales n'ont rien à dire devant ces hommes en armes. Nos sources indiquent que les habitants continuent à être soumis à des travaux communautaires forcés dans les zones occupées par les rebelles du M23. Cependant, dans les zones contrôlées par les groupes armés Wazalendo, nos sources rapportent plus d'arrestations arbitraires et d'exactions. Faute d'une autorité légalement établie, les Wazalendo arrêtent pour toute infraction. À Nyabiondo, par exemple, ces groupes armés auraient constitué une sorte de tribunal coutumier et une police parallèle, ajoute nos sources. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Rendons-nous en Ituri. 14 morts et une cinquantaine de blessés graves, dont la majorité sont des militaires de l'armée ougandaise. C'est le bilan d'un accident de route survenu mardi sur le tronçon Makeke-Bela dans le territoire de Mambasa. Des sources de la police rapportent que ces militaires étaient à bord d'un camion qui s'est renversé après avoir percuté un motard et deux de ses clientes. Ces dernières sont mortes sur place. Jean-Claude Loki nous en dit plus.
Selon nos sources, ce camion militaire transportait des soldats de l'armée ougandaise lorsque soudain, son conducteur s'est retrouvé face à un conducteur de taxi-moto. Incapable de freiner, les deux passagères sont mortellement percutés. Leur conducteur s'en sort avec des blessures graves. L'engin qui transportait des militaires s'est renversé et est complètement endommagé. Du côté de l'armée ougandaise, 12 soldats ont perdu la vie sur place et une cinquantaine d'autres sont blessés. Leurs corps sont retournés à Beni avant de les rapatrier en Ouganda, indique une autorité de la police. L'excès de vitesse et le système de freinage défectueux seraient à l'origine de ce drame. Certaines sources indiquent que ces militaires ne maîtrisaient pas bien le code routier congolais. Cet accident serait survenu pendant qu'ils roulaient sur la voie de la gauche, comme en Ouganda. Et pour rappel, ces soldats de l'armée ougandaise opèrent sur le sol congolais dans le cadre de l'opération Shujaa, menée depuis novembre 2021 par les armées congolaises et ougandaises contre les ADF dans l'est de la RDC. Bounyan, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
On va retourner à Kisangani. La réalisation me fait signe que Jacques Moukonkole est maintenant prêt de nous parler de l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi sur place au chef-lieu de la Tshopo. Jacques, bonjour.
Bonjour, Belinda Bosuma.
Dites-nous, est-ce que le chef de l'État est déjà arrivé sur place à Kisangani?
Non, pas du tout, Belinda. Le chef de l'État est toujours attendu par des milliers de personnes ici à la place de la Poste où je me trouve à l'instant. Mais la RTNC venait d'annoncer il y a plus d'une heure que le chef de l'État pourrait fouler le sol boulonnais vers 13h, heure locale. Comme vous pouvez le remarquer, Belinda, il y a donc un décalage par rapport à l'heure initiale annoncée par les officiels.
Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance sur place?
Ici, à la place de la Poste, c'est une ambiance de fête qui prévaut. L'esplanade de la Poste est bondée de monde. Les couleurs des partis politiques sont arborées. L'effigie du chef de l'État sont visibles partout et les gens continuent à venir ici. Vous le savez, Belinda, c'est ici, à la place de la Poste, que Félix-Antoine Tshisekedi va s'adresser à la population de la Tshopo pour la première fois depuis sa réélection en décembre 2024. Une occasion donc peut-être pour certains de lui rappeler ses promesses de campagne.
Merci Jacques Moukonkole. Je rappelle que vous intervenez en direct de Kisangani dans la province de la Tchopo où est attendu le chef de l'État. Nous allons revenir à vous dans nos prochaines éditions. On va retourner en Ituri. Cela fait plus d'un mois que la police nationale congolaise traque tous les véhicules qui circulent sans plaque d'immatriculation à Bunia. Une initiative louée par des acteurs sociaux de la ville. Cependant, des nombreux propriétaires des véhicules se disent victimes de ce qu'ils qualifient de mafia orchestrée à la douane de Mahagi et Karombo, porte d'entrée officielle de la RDC dans la province de l'Ituri. Une situation que dénonce l'ONG des défenses des droits humains Justice Plus. Sadiki Aboubakar, reportage.
Ils sont nombreux, des propriétaires de véhicules sans plaque d'immatriculation, non pas par manque de volonté, mais parce que victimes d'arnaques au niveau de la douane. Certains parlent même d'opérations mafieuses, comme l'explique Bienvenue au Ketch, le secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus.
Il y a plusieurs véhicules qui ont été réellement déclarés au niveau de la douane, mais lorsque les propriétaires se sont rendus au niveau de la DGI pour obtenir la plaque, ils se sont retrouvés que leur véhicule n'existait pas dans les systèmes. Le propriétaire a payé l'argent à la douane, mais les douaniers déclarent par exemple que c'est la farine qui est entrée, alors que c'est le véhicule. Beaucoup d'assujettis ont été obligés de payer beaucoup d'argent allant des 500 à 600 dollars pour régulariser au niveau de la DGDA. Ils ont été roulés.
Justice Plus en appelle à la justice pour toutes les victimes de cette fraude. C'est ainsi qu'il recommande au gouverneur de province
de mettre en place une commission mixte qui sera composée du gouvernement provincial, du parquet général et de la DGDA pour écouter les assujettis victimes de ces actes mafieux afin d'identifier et poursuivre les auteurs.
Lors de sa prise de fonction le jeudi 17 octobre 2024, le tout premier directeur provincial de la DGDA Ituri, Félix Kitengi, avait dit, je cite, « Nous devons changer le vocabulaire de la fraude en cellule des recettes ». Fin des citations. Bounia. Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Nord Kivu, va-t-on vers la fin de la grève dans les écoles publiques de Butembo? Oui, si l'on croit les recommandations de la rencontre tenue mardi entre le maire de la ville et les principaux acteurs du secteur éducatif et de la société civile locale. À l'issue d'un vote à main levée, les participants ont opté à l'unanimité pour la reprise des cours en attendant la réaction du gouvernement à leurs revendications. D'autres détails avec Grévis Saloum.
Cette rencontre organisée par le maire de Butembo a connu la participation des représentants des syndicats d'enseignants, des parents d'élèves, des autorités scolaires ainsi que de diverses autres composantes de la société civile. Après plusieurs échanges, la majorité a exprimé le souhait de reprendre les cours afin de sauver l'année scolaire en cours. Le révérend Maté Sanane, président de la société civile de Butembo, explique.
Unanimement, vraiment tout le monde a été d'avis que les cours reprennent en attendant le résultat des démarches qui sont en cours à Kinshasa. Cette confirmation a été exprimée par le vote à main levée. Et donc, nous accompagnons les enseignants dans ce sens.
Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Salomo Chalumo, a pour sa part exhorté les enseignants à retourner dans les classes en attendant la réponse du gouvernement.
Il y a nos élèves qui viennent de faire autant de jours sans étudier, surtout ceux du primaire public. Nous exhortons l'enseignant du primaire de rejoindre la classe en attendant à ce que le gouvernement réponde à ses revendications.
Le syndicat des enseignants du Congo Sieko à Butembo a promis de faire part des résultats de cette rencontre à ses membres avant de se prononcer officiellement. Beni Grévis Saloumou, Radio Okapi.
La province du Haut-Katanga est désormais partenaire de la Fondation Denise Nyakeru à travers son programme de bourse dénommé Wantanshi Excellencia. Annonce faite mardi à Lubumbashi au cours d'une conférence de presse animée par le coordonnateur de cette fondation et le ministre provincial de l'éducation. Pour cette première année, plus de 500 élèves qui ont eu leur diplôme d'État édition 2023-2024 avec au moins 75% vont passer dimanche le test de sélection avant d'être éligible à cette bourse de la province gérée par la Fondation. D'autres détails avec Joël Makubikwa, coordonnateur de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Il est au micro de Jean Gandou.
Ceux qui vont faire un minimum de 70% au test de sélection sont ceux-là qui seront boursiers de la province. Ces tests de sélection portent sur quatre matières. Il y a mathématiques qui est du niveau 6e littéraire, qui est le programme commun à toutes les options. Ensuite, il y a l'examen de français, l'examen d'anglais et l'examen de culture générale. culture générale, vraiment histoire, géographie, civisme, mais aussi des questions d'actualité. On a des candidats qui vont venir de Pueto, de Musoshi, de partout, dans toute la province. Et les options qui sont proposées sont des options que la province a estimées nécessaires pour le développement. En dehors de ces options-là, vous ne pourriez pas bénéficier de la bourse de la province. Donc la province finance vos études pour que vous puissiez étudier dans un secteur clé, bien précis, pour que à la fin de vos études, vous puissiez être utile à la province. De manière générale, c'est dans tout ce qui est agro-business, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est développement des mines, tout ce qui est génie civil, tout ce qui est technique.
Actualité internationale.
Nous sommes en Ouganda. Au moins 11 corps ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion d'un camion citerne mardi dans la localité de Kigogwa. C'est à 25 km au nord de la capitale Kampala. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui coulait du camion renversé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments, incluant 9 magasins, causant des dégâts matériels importants et un bilan humain tragique.
L'invité.
Nous recevons Fenelon Kiangaluka, gérant de la société des techniques spéciales. Cette société spécialisée dans la fourniture de l'électricité accepte d'accompagner la province du Maniema dans la réhabilitation de ses centrales hydroélectriques, annonce faite dans une interview à Radio Kapi à l'issue d'une visite des centrales de Rutshuru-Kuru et de Ambwe. Fenelon Kiangaluka est avec Florence Kizalunga.
Monsieur Fenelon Kiangaluka, bonjour.
Bonjour madame.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre société de techniques spéciales qui est abrégée par STS?
STS, société de techniques spéciales, c'est une société qui est créée depuis 1989. Au départ, elle était intéressée dans les installations électriques et continue toujours à le faire. La plupart des immeubles à Kinshasa, les installations électriques, c'est STS. Memling et autres, beaucoup d'ambassades, c'est STS. Et puis après, la libéralisation société de l'électricité. La société s'est orientée dans la production et puis la distribution de l'électricité dans certaines villes. Nous sommes à Tikapa, nous alimentons la ville de Tikapa en électricité après avoir réhabilité la centrale de Lungudi. À Bene Butembo, nous avons construit sur fonds propres deux centrales, la centrale d'Ivoga de 2.8 MW, presque 3 MW, et puis on vient de terminer la construction d'une centrale de 12 MW. Donc à Bene Butembo, on est presque 15 MW et nous électrifions les villes de Beni et Butembo en électricité. C'est ce qui fait que ça permet à la ville de Butembo et de Beni d'avoir l'électricité en permanence 24 sur 24 et permettre l'éclosion de beaucoup d'entreprises à Beni et Butembo.
Alors, c'est la même chose que vous venez faire au Maniema. Qu'est-ce qui vous amène au Maniema alors?
D'abord, nous venons au Maniema parce que nous avons été invités par son excellence, monsieur le gouverneur du Maniema, qui a eu l'idée géniale de mettre en place une conférence qui devait réfléchir sur l'électricité, les mines et les infrastructures. Et nous pensons que ce sont les bases sur lesquelles il faut monter un développement d'une province. Et c'est à ce titre-là que nous sommes venus. On a été invités pour partager l'expérience que nous avons fait à Tikapa et à Beni Butembo. Et nous pensons que vit juste de mettre en place cette conférence. Et nous avons dit que voilà ce que nous avons fait. Nous avons réhabilité les infrastructures à Tikapa. C'est des vieilles infrastructures qui datait de mise en service en 1947 nous pouvons construire de nouvelles infrastructures. Nous l'avons fait à Beni Butembo, deux centrales construites sur fonds propres, 2.8 et 12 MW. Et en prévision, on est occupé à voir comment construire une troisième centrale de 7 MW.
Mais la province du Maniema a aussi quelques centrales hydroélectriques. Est-ce que vous avez pensé un peu visiter et voir dans quel état se trouvent ces centrales?
Nous avons estimé qu'en marge de cette conférence, essayer de visiter quelques centrales hydroélectriques. Et là, nous remercions les autorités de Sakima qui nous ont permis de visiter leurs centrales. On a visité la centrale d'Ambwe, on a visité la centrale de Rutshuru-Kuru. Et puis nous pensons qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire si on arrive à avoir un accord. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est que dans un premier temps, réhabiliter l'existant, parce qu'on a été en mesure de le faire à Tikapa, réhabiliter l'existant. Et surtout par rapport à la demande de la ville de Kindu, parce que moi je rappelle que moi je suis d'ici. La dernière fois que j'étais à Kindu il y a 40 ans, je ne reconnais plus ma ville de 40 ans. Elle a beaucoup progressé. Je pense qu'elle mérite d'avoir l'électricité fiable. L'électricité fiable, c'est l'hydroélectricité. Et que donc, si les choses se passent bien, nous pouvons faire, dans un premier temps, réhabiliter l'existant et puis construire une centrale pour garantir l'électrification non seulement de la vie des Kindous, mais aussi assurer l'électricité pour la société Sakima. Ça va permettre à Sakima de renaître.
Alors, dans cet état où vous avez trouvé les centrales hydroélectriques d'Imanima, est-ce que l'état est encore prometteur?
Bon, je peux vous dire que c'est déjà Amboué, on a été Amboué hier. Ce n'est plus fonctionnel depuis plus de 20 ans. On est dans un état un peu compliqué. Et Rutshuru-Rukuru fonctionne encore. Mais dans tous les cas, nous avons vu pire. Nous avons vu pire à Tchikapa. Ce qu'on a eu à Tchikapa, c'est plus que ce qu'on avait ailleurs. Donc, et puis, au-delà de ça, c'est notre spécialité. Et nous pensons que si tout se passe bien, en tout cas, ce qui nous concerne, nous sommes en mesure d'apporter les financements et de réhabiliter ces centrales. Ce n'est pas la mer à boire.
Monsieur Fenol Kiangaluka, je vous remercie.
Je vous remercie, madame.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.